Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à la Capelle Marival, 97.7.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Présence midi en direct jusqu'à 13h. Elle est fatiguée, mais elle est quand même avec nous. C'est Androise Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Non, je ne suis pas fatiguée. Je suis très heureuse du PL de la Bigorre que nous venons de vivre, qui vient de s'achever.
Voilà, vous avez passé, on a passé un excellent week-end, un beau week-end à Lourdes. Vous l'avez dit à l'occasion donc de ce pèlerinage du diocèse de Tarbes et Lourdes. Les Pyrénéens étaient au sanctuaire de Lourdes. On va largement en parler dans la première partie de cette émission. Et puis on parlera dans une deuxième partie de l'actualité du diocèse de Tarbes et Lourdes avec une réorganisation en cours.
Oui, effectivement, puisque on en a déjà parlé, les paroisses se réorganisent dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, mais pas seulement. Il y a aussi trois pôles qui ont vu le jour depuis le 1er septembre. Voilà, nous en parlerons dans quelques instants. Il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle, de servir nos frères et sœurs malades et de se former pour mener une vraie vie spirituelle et sacramentelle. Beau programme, n'est-ce pas?
Beau programme. Et puis pour vous changer les idées, je vous propose de vous amener en haut du pic du Gers.
Ah, bah oui, ça va me changer. C'est voilà, vrai. Je verrai encore mieux le sanctuaire de Lourdes.
Voilà. Après, il y a deux solutions. Soit vous montez à pied, soit vous prenez le funiculaire au choix.
À pied. Je suis courageuse.
C'est dommage, on va parler du funiculaire.
Bon, bah, je redescendrai en funiculaire. Bon. Ça promet, ça va être une belle émission, je sens.
Je crois que jusqu'à 13h, on va faire une belle émission, effectivement. C'est Présence Midi qui démarre avec les titres et c'est Éric Leclerc qui est avec nous.
Dermatose nodulaire contagieuse. La DSE et les jeunes agriculteurs de l'Aveyron ont appelé une mobilisation hier soir devant la préfecture à Rodez en réaction à la décision du gouvernement d'interdire toute sortie de bovins du territoire métropolitain. Je cite les jeunes agriculteurs, il est inacceptable que l'ensemble de la profession soit puni collectivement à cause d'une mauvaise gestion de l'État. Des règles ont été fixées. Il appartient à l'État de les faire respecter afin d'atteindre l'objectif prioritaire, éradiquer la maladie au plus vite. Fin de citation. 90% du personnel de l'usine de pâte à papier à Saint-Gaudens s'est mis au chômage partiel depuis vendredi dernier. L'entreprise qui compte 275 salariés doit faire face à un contexte économique difficile. Cette décision de chômage partiel prise par la direction de Fibre Excellence a reçu un avis défavorable lors d'un vote par les représentants du personnel à l'occasion d'un CSE extraordinaire. La production doit reprendre le 24 novembre. Le Grand Cahors a rejoint le groupement d'intérêt public Ma Santé, Ma Région, initié par la région Occitanie. Ce centre de santé est le fruit de 3 années d'instruction. Depuis le dépôt de candidature du Grand Cahors, le centre de santé se situe à Cahors au 92 rue Joachim Murat. Il est composé d'une équipe d'un médecin généraliste, une infirmière en pratique avancée et une secrétaire médicale.
Merci beaucoup Éric Leclerc. On vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure Éric.
Présence à Aurignac. 94.1.
On s'arrête maintenant dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Rebonjour Androise Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
On le disait en début d'entretien, un beau week-end qui s'est vécu au sanctuaire de Lourdes à l'occasion donc du pèlerinage de la Bigorre. Les Hauts-Pyrénéens étaient à Lourdes en nombre.
Oui, ça avait commencé jeudi dernier, le 16 octobre, avec les écoles primaires catholiques. Plusieurs centaines d'enfants scolarisés depuis la classe de grande section jusqu'au CM2 se sont rendus au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Donc jeudi dernier, ils avaient ouvert les festivités et puis et puis tout le week-end jusqu'à il y a quelques instants. Voilà, le pèlerinage s'est déroulé. Les pèlerins malades sont encore présents au sanctuaire. Ils vont déjeuner ici et puis repartir chacun dans leur coin de Bigorre et de leur vallée.
Alors, durant 4 jours, il y a eu des rendez-vous communs, ouverts à tous, gratuits. Il y a eu énormément de temps fort. Un temps fort, c'était dimanche matin, aux alentours de 11h, à l'église Sainte-Bernadette, au sanctuaire de Lourdes.
Oui, Monseigneur Jean-Marc Mika, l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, attendait tous les pèlerins qui sont arrivés déjà depuis tôt, certains le matin. Certains sont venus à pied, d'autres sont venus en covoiturage, d'autres, certaines paroisses avaient organisé des bus. Voilà, toutes les paroisses, toutes les communautés chrétiennes du diocèse de Tarbes et Lourdes se sont rendues au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour vivre toute une journée qu'on a appelée le Festival de l'Espérance, puisque vous savez, hein, ce pèlerinage, il s'inscrit dans notre démarche jubilaire. Nous sommes venus à Lourdes pour être pèlerins d'espérance et notre évêque nous attendait à 11h dimanche matin pour nous confier sa vision pastorale, voilà, le contenu de sa lettre pastorale qui sera diffusée, publiée très bientôt dans le diocèse. Et enfin, il en a donné tous les éléments importants. C'était un moment très attendu par les diocésains, puisque vous le savez, on est dans une période de réorganisation des paroisses, d'une trentaine d'ensembles paroissiaux. Le diocèse de Tarbes et Lourdes est passé à maintenant 10 paroisses, avec chacune son cœur pastoral et administratif. C'est facile à dire, c'est facile à dire. Voilà, mais il faut le vivre, il faut l'organiser. Et donc la parole de l'évêque intervenait dans ce contexte-là, Monseigneur Mika, qui nous a vraiment invités à avoir confiance dans cette période, et il nous a vraiment invités à reprendre notre mission en main. Nous ne pouvons pas ne pas proposer la bonne nouvelle du Christ, nous ne pouvons pas ne pas témoigner de notre foi, nous a-t-il dit. Il nous a aussi invités à reconsidérer la place du Christ. Le Christ est toujours central et cette réalité de foi est au cœur de toute démarche, même celle de réformer en pratique le diocèse. Repartir du Christ sera et devra être toujours plus et mieux au cœur de la vie du diocèse et de toutes ses communautés. Voilà quelques mots de cette lettre pastorale donc que Monseigneur Jean-Marc Mika a dévoilée dimanche matin.
Voilà, et pour ceux qui veulent écouter cette prise de parole, eh bien on peut la réécouter en intégralité sur radioprésence.com dans les visages de l'église en Bigorre.
Voilà, n'hésitez pas à l'écouter, à vous en imprégner et puis à la partager.
Bravo à tous les organisateurs qui ont donc organisé ce pèlerinage de la Bigorre. Bravo également à l'hospitalité qui en coulisses a vraiment fait un beau travail d'accueil.
Oui, parce que l'hospitalité de Bigorre travaille depuis des mois. D'abord, les hospitaliers et les hospitalières sont mobilisés toute l'année pour servir nos frères et sœurs malades. Ils vont dans les EHPAD, ils vont visiter les malades à domicile et puis bien sûr, ils organisent ce pèlerinage très attendu. Et puis, ils font quelque chose de très important et ils cherchent de nouveaux hospitaliers parce qu'il faut toujours plus de monde pour accueillir correctement les malades, les pèlerins malades à Lourdes. Et cette année, eh bien, 30 nouveaux hospitaliers sont arrivés pour découvrir ce qu'est l'hospitalité, ce que c'est, ce que ça veut dire que servir les malades, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées au sanctuaire de Lourdes. Ça veut dire quoi? On fait quoi? Eh bien, voilà, 30 nouvelles personnes sont arrivées pour intégrer l'hospitalité de Bigorre cette année. C'est vraiment une très belle nouvelle.
Très bonne nouvelle, effectivement. Vous, Anne-Rose, je disais que vous étiez un peu fatiguée parce que vous avez passé le week-end à Lourdes. Et vous avez même profité pour découvrir les coulisses donc, de ce pèlerinage. C'est pour ça aussi que vous êtes fatiguée parce que vous êtes levée très tôt.
Effectivement.
Vous couchez très tard, je ne sais pas.
Ben, un peu les deux. Effectivement, parce que les pèlerins malades logés à l'accueil Notre-Dame, donc dans l'enceinte même du sanctuaire, j'avais la chance d'être logée là aussi pour toute la durée du pèlerinage. Et bien, au gré du temps qui passait, je me suis aperçue qu'il y avait, plein de services, et notamment un service qu'on ne voit pas souvent et dont on ne parle pas souvent, c'est le service de nuit. Eh bien oui, il y a des hospitaliers, des hospitaliers qui veillent sur les malades la nuit. Alors, à 4h45 ce matin, je suis allée les rencontrer et j'ai ouvert le micro de Radio Présence. Je vous propose d'écouter ce que ça a donné. Alors évidemment, on chuchote à 4h45 le matin dans l'accueil Notre-Dame quand tous les pèlerins dorment, mais ouvrez bien vos oreilles et je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de ces hospitaliers et hospitalières. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'accueil Notre-Dame en pleine nuit alors que les pèlerins malades, hospitaliers, sont endormis? Eh bien, on a voulu le savoir. En tous les cas, moi, j'ai voulu le savoir. Donc, je me suis levée aux aurores, c'est moins qu'on puisse dire. Et à 4h45, j'ai pointé le bout de mon nez pour regarder un petit peu cette équipe, les coulisses du pèlerinage. J'ai découvert toute une équipe,
une petite équipe, mais une équipe vaillante. Voilà, alors vous allez vous présenter.
Jean-Loup Martinet, de Lourdes et hospitalier de Bigorre.
Alain Sylvain, de Poix-Ferré, et c'est la première fois que je viens ici pour faire cette mission, disons quoi.
Anna Sylvain, de Poix-Ferré, bénévole.
Hospitalière depuis longtemps ?
Oui, depuis 15 ans, et 4 ou 5 ans, même plus depuis 10 ans que je fais des nuits.
Voilà.
Au départ, je faisais une nuit, maintenant j'en fais 3.
Ah oui, alors là, vous avez mis le doigt dans l'engrenage et hop. Alors, on va chuchoter, hein, parce qu'au moment où nous parlons, là, il est quelle heure ? Il est 5h, un petit peu plus de 5h du matin. Les pèlerins dorment encore. Alors, Jean-Louis, qu'est-ce qui se passe la nuit ? Quelle est votre mission ? Quand les pèlerins dorment, vous faites quoi ?
Ben, on ne sert à rien, en fait. On est là pour...
Vous feriez bien d'aller vous coucher.
On est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème avec nos pèlerins malades. Quand il y a un souci, on est là pour régler le problème.
Donc quand ils ont un souci la nuit, ils sonnent, c'est vous qui venez.
Voilà, c'est ça.
Et soit, alors là...
Soit ils sonnent, soit ils se lèvent et on vient voir ce qui se passe.
Alors, comment s'est passé ce pèlerinage de la Bigorre édition 2025 ? Il y a eu des appels, des soucis pendant les nuits. Il y a eu 3 nuits en tout. Comment ça s'est passé ?
Oh ben, il n'y a pas eu de grosses interventions. Principalement des petits soucis, des personnes qu'il fallait aider à aller aux toilettes. Un malade qui a rendu. Des petits soucis comme ça, mais rien de bien méchant.
Dans l'équipe là que vous êtes 4 donc pour veiller. Alors il y en a un parmi vous qui ne veut pas parler, mais il est là quand même. Donc vous êtes bien 4. Vous êtes soignant à la base ?
Ah, pas du tout.
Vous êtes hospitalier de Bigorre.
Voilà, hospitalier de Bigorre et de Notre-Dame de Lourdes aussi, mais je ne suis ni infirmier ni médecin.
Alors quand on fait la nuit, on est un petit peu hospitalier de l'ombre quand même, pèlerin de l'ombre. Alors vous, Anna, je crois qu'en plus, la journée, vous courez aussi. Hein, vous ne vous reposez pas tellement la journée. Mais normalement, quand on fait la nuit, dans la journée, on se repose. Et personne ne se rend compte qu'on est là la nuit, puisque tout le monde dort. On est un peu pèlerin de l'ombre, quand même.
Oui, parce que dans la journée, je suis pèlerin, oui.
Donc vous avez la double casquette. Alors, Alain, vous avez embarqué dans l'aventure. C'est votre premier pèlerinage. Et hop, vous faites les nuits. Qu'est-ce que ça vous fait, là, les 3 jours de pèlerinage ? Là, ça s'achève, c'est la dernière nuit. Dans quelques heures, les pèlerins vont repartir. Peut-être qu'on peut faire un petit bilan. Bilan du pèlerinage.
C'est très enrichissant. C'est très émouvant également, parce que Jean-Loup, tout à l'heure, a dit qu'on ne servait à rien, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'on est là quand même pour, non pas pour soigner, parce qu'on en est bien incapable, nous ne sommes ni médecins, ni infirmiers, mais nous sommes là surtout pour rassurer, pour consoler les gens qui sont un peu, qui ne sont pas bien, en fait, quoi, dans leur vie, et les aider à passer le cap de la nuit, en fait.
Ouais. Voilà. Oui, parce qu'alors, en fait, la nuit, c'est toujours un cap difficile, parce que, voilà, il fait nuit, il fait sombre, il n'y a pas de bruit. C'est angoissant pour certaines personnes. Oui. Et peut-être déjà pour les personnes qui portent déjà des fragilités. Ça, vous le ressentez, Jean-Loup ?
Oui, mais déjà pour les pèlerins, il y a le changement de vie. Ils sont chez eux, maintenant ils sont à Lourdes, dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. Il y a du monde, ils ont des journées très longues, hein. Ils ont beaucoup d'activités toute la journée. Ils sont en dortoir, enfin des dortoirs, c'est un bien grand mot, mais en chambré de plusieurs. C'est vraiment un changement de vie radical pour eux.
Oui. Donc la nuit, ils ont besoin de sentir qu'il y a des personnes qui dorment pas et qui sont présentes, qui restent éveillées pour elles, en quelque sorte.
Absolument, c'est exactement ça. Et bon, par exemple, là, je porte une blouse blanche, non pas parce que je suis docteur, les gens me demandent si je suis un docteur, mais ça les rassure quelque part.
Oui. Voilà. Vous, Jean-Loup, vous faites les nuits depuis des années.
Alors, moi, je suis hospitalier depuis très longtemps. Avant d'être lourdé, j'étais dans le Tarn, j'étais déjà à l'hospitalité d'Albi, et je faisais des nuits, seulement là, je faisais une nuit, deux nuits maximum, sur un pèlerinage. Quand je suis arrivé à Lourdes, j'ai dit que je venais de l'hospitalité d'Albi. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ben, il m'arrivait de faire des nuits. J'aurais dû me taire.
Allez, hop, rebelote. Mais vous avez... Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez le sourire. Alors, comment on fait pour avoir le sourire après trois nuits blanches? Allez, le secret. Vous faites la sieste, en fait, pendant la nuit?
Cette année, j'ai pas fait de sieste la nuit. Par contre, je dors la journée.
Voilà. Contrairement à Anna. Voilà. Et puis, je sais pas, j'imagine... Là, quand je suis arrivée un peu avant 5 heures, là, dans cette salle où vous vous trouvez, qui est assez centrale, finalement, dans cet accueil Notre-Dame, je vous ai trouvé avec le sourire. Derrière vous, il y a du... Il y a un petit reste de fromage, il y a du café, il y a des madeleines. Enfin, j'ai l'impression comme ça, quand même, que finalement, quand on fait la nuit, dans cette petite équipe, on tisse des liens. Peut-être que vous n'auriez pas tissé si vous aviez été les uns et les autres hospitaliers dans la journée, en fait.
Non, ça aurait été bien différent, c'est sûr. Oui. C'est vraiment une autre sorte de pèlerinage. On ne vit pas du tout la même chose.
Vous ne vous sentez pas frustré parfois, Jean-Loup, de pas vivre avec les pèlerins dans la journée, de pas aller avec eux à la messe, à la procession, faire le geste de l'eau? Vous n'avez pas l'impression parfois de passer à côté du pèlerinage?
Ça m'arrive, mais bon, d'un autre côté, je suis aussi à l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Je suis là tout le temps.
Pardon, mais je vais vous poser la même question qu'Anna. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on tombe dans la marmite de l'hospitalité?
Franchement, je ne sais pas. J'ai pas. On rend service. On est bien quelque part. Parce qu'il faut le faire.
C'est ça qui est impressionnant, parce que on n'est pas hospitalier pour avoir de la reconnaissance. Alors encore plus quand on fait, d'autant plus quand on fait la nuit, parce que personne vous voit dans la journée. Personne sait que c'est vous, Jean-Loup, qui avez veillé toute la nuit sur nos frères et sœurs malades. C'est quand même étonnant, ça, de cet engagement discret, j'allais dire humble, de l'hospitalier, des hospitalières. Anna, en plus, je crois que vous êtes là le reste de l'année. Au niveau de l'accueil Notre-Dame, finalement ici vous êtes un peu chez vous, Anna. Alors votre mari lève les bras au ciel. Bon, alors je sais pas lequel va répondre du coup.
Oui, je suis là l'année. Je sais pas comment dire.
Qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Vous venez pas ici pour faire les nuits tout le temps?
Ici à l'accueil Notre-Dame, c'est que pendant la saison été.
Et vous faites quoi?
En bas, au bureau, on accueille les pèlerins, on donne les fauteuils, on s'occupe des fauteuils, puis on accueille pour les pèlerins qui rentrent. Tout ça, on donne des renseignements, on a beaucoup de choses.
Et alors, monsieur, l'engagement de madame, le jour, l'été, la nuit, à l'automne?
Mais c'est très bien, parce que ça la maintient en forme.
Ah, ben voilà, alors... Au moins, c'est dit.
On a l'impression de ne pas vieillir, en fait.
Ah ben ça, alors c'est vrai, ça. Le service, ça maintient en forme. Hein, c'est ça, vous validez?
Oui. Oui, c'est la raison.
Alors, moi, je vous trouve extraordinaire, Anna. Parce que vous êtes discrète. On vous voit passer, un petit bonjour par-ci, par-là. C'est pas écrit sur votre front que vous êtes à l'accueil Notre-Dame pour rendre service presque toute l'année, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment le miracle de Lourdes. Ces personnes qui s'investissent, qui s'engagent, et puis qui s'engagent dans la durée. Vous en êtes vraiment l'exemple, quoi. En fait, toute l'année, cet accueil Notre-Dame, il peut fonctionner. Alors, il y a des salariés, hein, aussi, bien sûr. Mais aussi grâce à des bénévoles comme vous, qui discrètement donnent de leur temps. C'est incroyable, ça, Anna.
Nous sommes des privilégiés à Lourdes, parce qu'on a la chance de pouvoir venir toute l'année. Oui. On a un privilège ici. Besoin, on doit venir, c'est un besoin, c'est un devoir, c'est une rencontre.
Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant d'être retraité?
L'hôtellerie, et on avait déjà l'accueil avec les pèlerins.
Ah. Ah, c'est ça, le côté de l'accueil.
Et moi, j'étais beaucoup dans l'accueil. Et quand on a pris notre retraite, il fallait que je continue à être avec des pèlerins, des clients, l'accueillir.
Voilà, c'est bien parce que quand on est hôtelier, on a évidemment on a les pieds et les mains dans le cambouis lourdé, j'allais dire, mais peut-être un peu d'une autre manière que celle de l'hospitalité quand même. Voilà, vous avez découvert peut-être Lourdes différemment.
Ah oui.
Tout à fait. C'est une face cachée qui nous était cachée. Bien sûr, on recevait des pèlerins, on recevait énormément d'hospitaliers aussi. C'est presque une spécialité pour nous. Mais c'est une face de qui nous était complètement cachée. On imaginait bien sûr leur vie, leur. Franchement, Anna, elle s'est trouvée. Conquise par ce sacerdoce, je peux dire. Et depuis qu'on est à la retraite, elle n'arrête pas et ça lui va très bien.
Ah ben, ça valait le coup de se lever à 4h45 du matin, moi je vous le dis. Hein. Alors Jean-Loup, vous faisiez quoi avant de donner beaucoup de temps à l'hospitalité?
Oh ben, ça n'avait rien à voir avec l'hôtellerie ou l'accueil. J'étais informaticien de métier. Et aussi généalogiste. J'ai fait un peu les deux choses. Ça n'avait strictement aucun rapport.
Voilà. Ben oui, mais c'est ça aussi. Hein, le Lourdes et l'hospitalité, c'est qu'il y a des personnes vraiment de tous horizons, hein, on peut dire. Allez, on va terminer cet entretien. Comme vous êtes ici toute la nuit, vous êtes aussi témoin de ce qui se passe dans le sanctuaire. Là, on se trouve dans une grande salle de l'accueil Notre-Dame. En face de nous, eh bien, il y a le sanctuaire, l'esplanade, la basilique du Rosaire, la grotte un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Racontez-nous ce que vous pouvez observer. Voir le sanctuaire de Lourdes en pleine nuit, c'est quand même pas donné à tout le monde.
Oh ben, c'est surtout la nuit, c'est surtout les gardes, toute la sécurité. Et personnellement, je connais plus ou moins tous les gardes. Bon, on travaille beaucoup ensemble.
Mais en tous les cas, si vous avez un problème. Vous savez qu'en bas, il y a des gardes qui sont là toute la nuit. Vous êtes les sentinelles des malades, ils sont vos sentinelles.
Voilà. On a, avec le pèlerinage à Bigorre, on a des infirmières et des médecins qui sont là s'il y a besoin. Si jamais il y a un problème un peu trop important, on appelle les gardes et ils savent quoi faire. Voilà.
Allez, on termine avec vous, Anna. Ce sanctuaire, donc, en pleine nuit, c'est impressionnant quand même, parce que toute la journée, on voit des milliers de pèlerins. Ça fourmille, ça grouille. Ce week-end, pendant le Palais de la Bigorre, il y avait d'autres pèlerinages. Beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Et puis là, à 5h du matin, c'est le grand calme. Ce calme du sanctuaire, il vous fait du bien, en tous les cas.
Oui, ça fait du bien, là.
C'est comme une prière, vous diriez ça?
Oui, peut-être. Une prière qu'on ne dit pas, mais qui reste à l'intérieur.
Allez, le mot de la fin, finalement, c'est monsieur.
Je dirais un mot, c'est la sérénité.
Voilà. Bah, merci à l'équipe de nuit. On va prendre un petit café. Merci beaucoup pour votre accueil. Et merci d'avoir été suffisamment éveillé pour répondre aux questions de Radio Présence. Bon retour chez vous après ce pèlerinage. Et bon repos. Merci pour votre service.
Voilà. Et ce calme, on l'entend également dans votre reportage. Hein. Voilà, vous êtes levé à 4h du matin.
Vous avez l'air surpris de vous rendre compte que je peux chuchoter parfois.
Ouais, non, mais c'est très apaisant, en tout cas, ce reportage.
Mais alors, oui, mais je trouvais que c'était important
de se lever tôt,
pour donner la parole à ces personnes, effectivement, qu'on ne voit pas et qui sont quand même mobilisées pour que tout se passe bien pour les pèlerins. Et puis, je me suis rendu compte que dans le sanctuaire de Lourdes, la nuit, eh bien, il y a des personnes qui travaillent, ou en tous les cas, très tôt le matin, puisqu'au moment où j'ai enregistré ou réalisé ce reportage, il y avait des gardes qui tournaient, il y avait les feutiers qui étaient déjà au travail, les sacristains, et puis le personnel d'entretien. Alors on est content de trouver le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes beau, propre, et bien il y a des personnes derrière qui travaillent. Voilà.
Voilà, et pour les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant, hein, on a écouté ce son puisque ce week-end c'était le pèlerinage de la Bigorre, le pèlerinage du diocèse de Tarbes et Lourdes au sanctuaire de Lourdes, donc un beau pèlerinage à retrouver également sur Bigorre TV. On poursuit cette émission avec une partie agenda et puisque ce sont les vacances, ouais, vous allez nous proposer une idée de sortie à direction la Vallée d'Or.
Exactement, je vous emmène à Vignec, dans le petit village qui compte 200 habitants.
habitants, je crois, depuis le 18 octobre jusqu'au 2 novembre, c'est-à-dire pendant toutes les vacances scolaires, le moulin de Vignec ouvre ses portes pour vous permettre de venir visiter l'exposition de bénitiers de maisons qui est installée. 900 bénitiers, vous savez, les bénitiers, ils étaient accrochés dans les maisons, souvent près des lits ou dans la pièce principale de la maison autrefois. Eh bien, il y a 900 pièces qui sont ainsi exposées dans ce petit moulin de Vignec. Et ça rappelle un souvenir d'un temps où le sacré était vraiment au cœur des maisons et des vies. Vous pouvez y aller en famille. En plus, la Vallée d'Or, c'est très joli. Donc vous visitez ce moulin de Vignec, ses bénitiers. Et puis après, vous allez vous promener dans cette Vallée d'Or et du Louron.
Voilà, avec les couleurs d'automne.
Exactement, c'est magnifique. Notre Bigorre est magnifique, de toute façon.
Il y a aussi d'autres départements en Occitanie qui sont bien.
Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup l'Aveyron.
On poursuit, on termine cet agenda avec la quinzaine du Narthex. C'est au mois de novembre.
Oui, alors prenez déjà note, ça approche, la 32e quinzaine du Narthex qui aura lieu à Tarbes dès le début du mois de novembre. Elle nous permettra d'échanger sur le thème de la confiance, dont on constate souvent le délitement dans un climat politique et social assez compliqué. 4 soirées sont organisées à la Bourse du Travail à Tarbes, de 18h30 à 21h, le lundi 3 novembre, le vendredi 7 novembre, le jeudi 13 novembre et le vendredi 14 novembre, avec à chaque fois des prises de parole, des conférences d'invités remarquables. À noter notamment le jeudi 13 novembre, la conférence du père Pierre de Berger, « Espérer contre toute espérance ». Ce sera le thème de sa prise de parole. Et puis il y aura aussi une table ronde le vendredi 14 novembre, une table ronde sur le thème « Les institutions à l'épreuve de la défiance » avec Rémi Cabana, qui est le directeur scientifique de l'Observatoire du Pic du Midi, Denis Feignier, député des Hautes-Pyrénées, Pascal Moreau, proviseur de lycée, et Arnaud Paul, journaliste à La Dépêche du Midi. Voilà, toutes les informations sont bien sûr sur le site du diocèse catholique 65.fr, également sur l'application Au Clocher, et puis dans le bulletin diocésain qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines maintenant.
Voilà, et tout ça c'est valable également pour plus largement l'actualité et l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Bigorre TV. Il y a eu de nouveaux abonnés pendant le pèlerinage de la Bigorre. On apprend de 1000 abonnés. Attention, le millième a une surprise. Je l'ai déjà dit, mais je le répète.
Très bien.
Donc abonnez-vous rapidement. Mais attention, si vous voulez être le millième, il faut bien doser votre enthousiasme.
Merci beaucoup, Ambroise Jankovic. Vous restez avec nous, puisque dans 15 instants, on va vous retrouver pour parler d'un autre sujet.
La réforme du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Et également, Éric Leclerc nous rejoint dans un instant pour le journal régional. Tout ça, c'est après avoir écouté les derniers et les premiers à 12h27. Bon appétit.
Quand marcher sans autre but, plus de passé, de main fourbue, dans le néant du froid de la rue. Quand les mots n'existent plus, quand l'espérance oubliée est dissolue, quand les alcools même ne saoulent plus, restent les phrases écorchées. Ces phrases qu'on jette avant de renoncer. Les derniers seront les premiers dans notre réalité. Nous serons princes d'éternité. Un rayon de soleil au hasard. Une fleur abandonnée, ce que les autres ont laissé de côté. Plus assez neuf, plus assez. Quand t'as placé tout dehors, ne reste que ces phrases comme ils l'ont prise. Dans notre réalité, nous serons princes d'éternité. Les derniers seront les premiers dans notre réalité.
avoir choisi Présence Midi pour votre pause déjeuner. À 12h30, on fait un point complet sur l'actualité régionale avec le journal. Journal présenté aujourd'hui par Éric Leclerc.
Bonjour, 90% du personnel de l'usine de pâte à papier à Saint-Gaudens s'est mis au chômage partiel depuis vendredi dernier. L'entreprise qui compte 275 salariés doit faire face à un contexte économique difficile. Cette décision de chômage partiel prise par la direction de Fibre Excellence a reçu un avis défavorable lors d'un vote par les représentants du personnel à l'occasion d'un CSE extraordinaire. La production doit reprendre le 24 novembre. Dermatose nodulaire contagieuse, les DSEA et les jeunes agriculteurs de l'Aveyron ont appelé à une mobilisation hier soir devant la préfecture à Rodez en réaction à la décision du gouvernement d'interdire toute sortie de bovins du territoire métropolitain. Je cite les jeunes agriculteurs, « Il est inacceptable que l'ensemble de la profession soit puni collectivement à cause d'une mauvaise gestion de l'État. Des règles ont été fixées, il appartient à l'État de les faire respecter afin d'atteindre l'objectif prioritaire, éradiquer la maladie au plus vite. » Fin de citation. Le Grand Cahors a rejoint le groupement d'intérêt public Ma Santé, Ma Région, initié par la région Occitanie. Ce centre de santé est le fruit de 3 années d'instruction depuis le dépôt de candidature du Grand Cahors. Le centre de santé se situe à Cahors, au 92 rue Joachim Murat. Il est composé d'une équipe d'un médecin généraliste, d'une infirmière en pratique avancée et d'une secrétaire médicale. Santé toujours, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et contre la Covid-19 est en cours. Vous pouvez vous faire vacciner au centre municipal de vaccination de Toulouse sur rendez-vous uniquement. Si vous êtes concerné par les deux vaccinations, il est possible de les effectuer en même temps. La vaccination contre la grippe et la Covid-19 est sans avance de frais au centre de vaccination municipal. Le jour du rendez-vous, vous avez besoin d'une pièce d'identité, de votre carte vitale ou d'une attestation de droit. Pour la 5e année consécutive, Pamiers renouvelle l'opération Pamiers dans l'espace. Cet événement se déroule jusqu'au 24 octobre en partenariat avec le CNES, Planète Science, la MJC et la ville de Pamiers. L'objectif, rendre accessible la thématique des sciences du spatial aux enfants du territoire, notamment à ceux vivant dans les quartiers relevant de la politique de la ville. Tout au long de la semaine, les jeunes pourront s'inscrire à des ateliers gratuits, planétarium, rallye, GPS, fusée, construction d'objets en 3D ou bien des satellites. Le musée des Amériques à Auch va entamer une nouvelle saison de son cycle de conférences ouverte à tous les publics. Et les amateurs d'histoire de l'art seront une nouvelle fois au rendez-vous des deux séances du lundi à 15h30 et 18h. Elles mettront en lumière les épopées et mythes célèbres à travers leur représentation dans l'art et au rythme des époques et des continents. Prochain rendez-vous, le lundi 17 novembre, dessiner l'idéal, une histoire de l'architecture visionnaire par Maëlle Leroyer.
Merci beaucoup Éric Leclerc, voilà pour l'actualité régionale.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence.
Merci d'être resté avec nous, Anne-Rose Jankovic. On va parler d'un tout autre sujet maintenant sur notre antenne.
Oui, on va parler des changements d'organisation, on va parler de réforme du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, mais d'autres diocèses, peut-être en Occitanie et ailleurs en France, vivent aussi une phase de réorganisation, de changement, de réforme. En tous les cas, dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, depuis le 1er septembre, notre diocèse est donc réorganisé en 10 nouvelles paroisses. La réorganisation en cours dans nos territoires, elle est liée également à la réorganisation des services diocésains, désormais articulés en 3 pôles, l'annonce de la foi, la diaconie, le service du frère, et la formation, la vie spirituelle et sacramentelle. Alors diaconie, kérigme, formation, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là? Peut-être que ce sont des mots qui peuvent un petit peu faire peur. Je vous propose d'être éclairé par le témoignage et les explications de 3 personnes. Christophe Manceau, qui est donc le coordonnateur du pôle diaconie, Saint-Denis depuis le 1er septembre. Isabelle Pin, qui coordonne le pôle formation vie chrétienne, sacramentelle et spirituelle, et Thibaut Leblon, qui coordonne le pôle kérigme, annonce de la foi dans notre diocèse. Il nous explique qu'est-ce que tout cela veut dire.
Alors, les uns et les autres, vous travaillez ensemble, mais vous avez chacun quand même un terrain à explorer, à découvrir et à porter. On va essayer de comprendre d'abord les spécificités de vos terrains respectifs et puis de voir un petit peu les ponts qu'il y a. Mais il y a quand même des mots. Christophe Manceau, le service du frère, on appelle ça la diaconie. Alors, vous êtes diacre, mais la diaconie, ce n'est pas le service des diacres.
Non, du tout.
C'est le service des frères. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre quand même quelques minutes pour donner quelques définitions, donner du sens à tous ces mots-là qui paraissent un petit peu lointains, voire qui font un petit peu peur?
Eh bien, la diaconie, c'est le service du frère, c'est pour tout le monde, pour les chrétiens, pour les paroisses, pour le diocèse, pour l'Église universelle. Et la diaconie, les diacres, c'est des serviteurs. Il n'y a qu'un seul serviteur, c'est le Seigneur, serviteur pour tous. Et pour que tout s'en soit, eh bien, il y en a quelques-uns qui sont appelés à être signes de ce service. Mais les diacres, c'est les serviteurs, c'est à part le service des plus démunis, c'est pour tous.
Donc, quand on parle service des plus démunis, ça peut être n'importe quelle œuvre de charité. On peut parler là du service auprès des personnes malades. On peut parler de visiteurs de prison. C'est très large, en fait.
C'est très très large. Les migrants, les itinérants, toutes les personnes en difficulté. Je pense aux abus sexuels dans l'Église, les personnes qui sont en difficulté par rapport à qui sont divorcées, remariées, oui. C'est très très large.
Vous parlez des personnes divorcées, remariées, ça rejoint donc aussi la vie de famille. Là, la famille, c'est plus dans votre périmètre, du coup, Thibaut Leblon. Là, vous êtes coordonnateur du pôle annonce, kérigme. Alors, déjà, le mot kérigme, expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est?
Kérigme, qu'est-ce que c'est? Kérigme, déjà, c'est un mot grec. Si on veut en donner une définition assez simple, c'est le cœur de notre foi. C'est le message essentiel que j'ai envie de partager aux autres. Ce qui anime mes tripes et mon cœur quand j'ai foi en Jésus-Christ, c'est ce message essentiel, c'est Jésus m'aime et m'a sauvé. Jésus m'aime et m'a sauvé, et je veux te l'annoncer parce que c'est une bonne nouvelle. Voilà le kérigme, sa définition, c'est ce message essentiel. La seule chose qu'on aurait à partager à ceux qui nous entourent, mais aussi à ceux qui sont aux périphéries, ceux qui sont plus loin, c'est pouvoir dire d'une part, Jésus t'aime, ça veut dire que tu as de la valeur, que tu as du prix aux yeux de Dieu, et que tu as du prix à mes yeux, et que c'est pour toi et rien que pour toi. Et l'autre chose, c'est qu'il t'a sauvé. Mais il nous a sauvés. Et donc le kérigme, c'est aussi dire que nous avons ce corps du Christ qui se met en marche, ces liens qui nous unissent, cette communauté qui se met en mouvement. Et donc le cœur de ça, de cette annonce de la foi, c'est de pouvoir porter ces deux pieds-là. Voilà, ça tient sur deux pieds, c'est de pouvoir porter ces deux messages-là.
L'annonce de la foi, elle concerne tout le monde, tous les champs de l'Église, tous les baptisés sont concernés par cette mission. À quoi ça sert de les ranger dans un pôle, en fait?
À quoi ça sert de les ranger dans un pôle? Effectivement, c'est de simplement de pouvoir se dire que l'annonce de la foi, elle se traduit de manière différente selon les personnes à qui on s'adresse. Et que...
Mais pourtant, la bonne nouvelle est toujours la même.
Par contre, la bonne nouvelle est toujours la même. Mais l'Évangile, il va parler particulièrement à chacun dans son cœur. Mmh. Et surtout, il va nous parler à chacun selon notre situation, selon le moment de notre vie. Quand on est célibataire, quand on est en couple, quand on est jeune, quand on est plus ancien, quand on est en situation difficile dans sa vie, quand on a des problèmes de santé, quand on est en précarité, ou qu'on se pose des questions de vocation, ou qu'on veut le sacerdoce, etc. C'est simplement que la bonne nouvelle me parle à moi aujourd'hui, dans ma vie, dans l'instant où je suis et avec les questions que j'ai. Et donc cette annonce de la foi, la mettre, la rassembler dans un pôle plus large qui touche effectivement à la famille, qui touche aux jeunes, qui touche à la question des vocations, à la question de ces adultes qui veulent demander le baptême. Toutes ces réalités-là...
Toutes ces réalités-là, elles sont dans le périmètre de votre...
Et plus encore, c'est de pouvoir actualiser en permanence ce message pour ceux qui viennent vers nous, ou d'autant plus à ceux qui n'ont plus rien à demander ou qui n'attendent rien de l'Église. Comment l'on traduit pour eux ce message de la bonne nouvelle.
Isabelle Pain, est-ce que pour traduire ce message de la bonne nouvelle et pour être capable d'annoncer la bonne nouvelle, est-ce qu'on a tous besoin de formation ?
Oui, alors bien sûr, la formation, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'être accompagné dans son chemin. Alors, j'aurais tendance à dire, j'aime bien mettre le mot formation avec vie spirituelle et de les accoler, parce qu'en fait, l'un et l'autre vont ensemble, je trouve. On peut arriver justement aux portes de l'Église ou être déjà connaisseur, on va dire, de l'Église avec une vie intérieure qui a besoin et qui va se... Au fur et à mesure qu'elle va grandir, elle va avoir besoin de, avoir une curiosité. Et donc, elle va avoir besoin d'être nourrie par de la formation pour grandir, en fait. Et au même titre, j'aurais tendance à dire que, eh bien, on a tous, à un moment donné, on va tous, à un moment donné, appelés par cette formation qui fait qu'on se rend compte de la richesse de ce que l'on découvre au fur et à mesure. En fait, on est en chemin. Donc, les deux vont ensemble pour se nourrir. Et donc, nous sommes tous présentés, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on a tous des points communs, en fait. Moi, par exemple, quand je suis rentrée au niveau du diocèse, je suis arrivée avec ma foi au cœur, rentrée dans la catéchèse, et j'étais justement à annoncer, en commençant par mes enfants, et après, plus largement, en m'investissant dans l'Église. Et Thibaut porte cette annonce. Donc, quelque part, on se rend compte qu'on est tous... on est tous liés, en fait. Tout est lié, en fait. Mmh. Que ça soit la formation, notre vie spirituelle, l'annonce, le service des autres. Enfin, on a tous quelque chose à partager ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, ce pôle, il a besoin de vivre cette dimension de trinôme pour porter ces éléments ensemble, quoi.
Voilà, un trinôme au service de la réforme du diocèse de Tarbes et Lourdes, au service des paroisses. C'est important de le rappeler. C'est un entretien que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site de Radio Présence. Et puis, pour les auditeurs qui nous écoutent dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, en programme local dans l'émission Visage d'Église en Bigorre.
Voilà, en entier, puisque ça, c'était juste un extrait.
Un extrait, mais bon, ça peut être intéressant pour diocèse. D'autres diocèses qui vivent aussi des transformations. Tout va bien, le Christ est là.
Merci beaucoup Anne-Rose.
Merci Gilles.
On vous laisse vous reposer. C'est la sieste cet après-midi qui est prévue.
Mais ça ne vous regarde pas. Non, il y a plein de photos du pèlerinage faut trier, qu'il faut publier. Voilà. En tous les cas, c'était merci à tous les Bigourdans qui sont venus au sanctuaire de l'autre. C'était vraiment une belle édition.
Exactement, une belle édition avec une météo clémente finalement.
Oui,
globalement.
Oui. C'est vrai qu'on a eu de la chance.
On va prendre un peu d'altitude et on va rester à Lourdes dans un instant, direction le pic du Gers avec le funiculaire qui va nous entraîner là-haut avec Laurent de l'office de
tourisme. Ok, donc on n'a pas le droit d'y aller à pied.
Si vous voulez. Vous pouvez y aller à pied, vous pouvez monter à funiculaire, descendre à pied ou vice-versa selon votre motivation.
Bon, on écoute Laurent.
Merci Anne-Rose.
Merci Gilles.
Belle journée à Lourdes.
À vous aussi.
Main ouverte, cœur brisé. Sans verser, m'a lavé, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé.
présence à Cahors, 92.5.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller ? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Présence. Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Et dans cette chronique, on va prendre un peu d'altitude avec le funiculaire du Pic du Gers à Lourdes. Et c'est Julie qui va nous servir de guide. Bonjour Julie.
Bonjour Gilles.
Vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes et chaque semaine, on se retrouve sur Radio Présence. Je le disais, les Lourdais connaissent bien ce funiculaire de Lourdes, mais ils connaissent peut-être un peu moins bien l'histoire de ce funiculaire. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler, cette histoire ?
Oui, bien sûr. Alors, le funiculaire du Pic du Gers, il est né déjà de l'essor un petit peu des visiteurs et des pèlerins qui ont déjà été très nombreux dès l'année des apparitions en 1858. Et encore plus, à partir du 9 mars 1866, puisque c'était l'arrivée du chemin de fer. La gare de Lourdes a été inaugurée à cette date. Et là, de plus en plus de pèlerins, de curieux, ont eu plus de facilité aussi pour venir jusqu'à Lourdes. Donc là, l'idée est née de leur proposer beaucoup plus d'activités, de nouveautés un petit peu, et de quoi faire en même temps pendant leur séjour et leur pèlerinage.
Avant de parler du fonctionnement donc de ce funiculaire, un mot donc des travaux qui ont débuté en 1898.
Exactement, les travaux ont commencé en août 1898. C'est un funiculaire qui a été conçu par l'ingénieur Chambrelan. Ça a été l'un des premiers funiculaires à être construit en France, puisque son utilisation pour le transport de passagers est assez récente dans l'histoire. Ça a été mis au point vers 1825 en Angleterre. Et les travaux se sont terminés en décembre 1899. Donc ça a été assez rapide comme construction. Donc il faut savoir qu'un funiculaire, c'est une remontée mécanique équipée de deux cabines en fait qui vont faire contrepoids avec un câble en fait, d'où le nom de funiculaire, funiculum en latin. Donc ce câble finalement qui va permettre de tracter les cabines sur un plan incliné, et ça va permettre de passer un petit peu les déclivités de terrain. Il va y avoir ensuite un système de moteur qui permet également de compenser si jamais une cabine est plus lourde que l'autre en termes de passagers ou si voilà, s'il y a besoin de compenser un petit peu le poids.
Donc il y a deux cabines, une qui monte et une qui descend.
Exactement, et la cabine qui descend entraîne la montée de l'autre. C'est vraiment un système très ingénieux. Donc la mise en fonctionnement du funiculaire du Pic du Gers a été réalisée en mai 1900 et le funiculaire a été inauguré officiellement le 17 juin de cette même année.
Alors depuis, évidemment, il y a eu des opérations de maintenance pour que ce funiculaire continue encore aujourd'hui à fonctionner.
Tout à fait. D'abord, dans les années 1950, c'est les cabines qui ont été rénovées, puisqu'autrefois, elles étaient en bois. Donc, elles ont été changées, un petit peu plus modernisées. Et aussi, dans les années plus récemment, 1990, là, c'est plutôt le système de machinerie et de moteurs qui ont été changés. En 1900 également, il y a eu l'installation de la Grande Croix que l'on peut voir tout à fait au sommet du Pic du Gers, à 948 mètres d'altitude.
Alors, un mot donc de ce funiculaire. Lorsqu'on prend le funiculaire en bas et qu'on arrive en haut, on peut dire que la vue est magistrale lorsqu'on arrive au sommet du Pic du Gers.
Tout à fait. Il y a un magnifique point de vue à 360 degrés sur toute la chaîne des Pyrénées. On peut aussi voir le Pic du Midi, la ville de Lourdes en contrebas. Il faut savoir que l'altitude, quand on démarre avec le funiculaire en bas, est à 450 mètres. On arrive à la gare supérieure à 888 mètres. Et ensuite, il y a une petite marche, une petite randonnée pour arriver jusqu'à tout à fait au sommet. En gros, on franchit à peu près 438 mètres de dénivelé en 10 minutes. Donc c'est quand même assez rapide.
C'est rapide. Et c'est évidemment une visite incontournable pour tous les visiteurs qui viennent à Lourdes.
Tout à fait, c'est une des visites incontournables, avec la visite bien sûr du sanctuaire ou du château. C'est vrai que le funiculaire permet de prendre un petit peu plus de hauteur et permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous ces magnifiques sites pyrénéens.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que le funiculaire fonctionne à peu près au même moment que la saison des pèlerinages, il n'est pas ouvert toute l'année.
Tout à fait, d'avril à octobre, on peut en profiter. On peut en profiter donc pour monter avec ce funiculaire, on peut aussi toute l'année y monter à pied. On peut aussi utiliser le funiculaire notamment pour profiter du bike parc qui est sur les pentes du pic du Gers pour monter en vélo et faire les descentes. Enfin, monter en funiculaire et faire les descentes à vélo.
On peut aussi, quand on emprunte le funiculaire, regarder la gare de départ, qui est aussi d'époque.
Tout à fait, la gare inférieure, qui est une très jolie gare dans le style de l'époque. Vous trouverez aussi dans la gare supérieure des photos d'archives du funiculaire et de la construction du funiculaire, où on peut voir justement les ouvriers un peu suspendus en l'air quand ils construisaient les 12 arches du viaduc, et également les deux grands tunnels qui ont été creusés à même la roche calcaire du funiculaire. C'est assez impressionnant.
Voilà pour le funiculaire du pic du Gers de Lourdes, donc ce funiculaire qui est ouvert d'avril à octobre. Si on souhaite se renseigner, le site internet de l'Office de Tourisme est à la disposition des auditeurs. Et moi, il me reste qu'à vous remercier, Julie. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de Tourisme de Lourdes. Et on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine, pour une nouvelle balade en Pays de Lourdes.
Merci beaucoup, à bientôt.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Laudetur Jesus Christus.
Chaque jour, à 8h30, 13h et 18h, Radio Présence vous propose un tour complet de l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican.
À Prague, pour Radio Vatican, Guillaume Nord.
Bernard, Delphine Darbelier.
Pierre Benazet, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Moscou, Jean-Didier Revoin.
New York, Loïc Louré, Radio Vatican.
Sur Radio Présence, trois rendez-vous avec Radio Vatican à 8h30, 13h et 18h.
Présence à Moissac 93.3.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Deux tiers de l'humanité est concernée par des violations de libertés religieuses, l'aide à l'Église en détresse.